France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La gauche divisée face à François Bayrou, le Parti socialiste renonce finalement à censurer le Premier ministre qui a multiplié les concessions. Les députés se prononcent en ce moment sur la motion déposée par les insoumis, les communistes et les écologistes. Dans un instant, nous retrouverons Sophie Delpont à l'Assemblée. La trêve à Gaza, suspendue à l'accord des Israéliens. Benjamin Netanyahou accuse le Hamas de remettre en cause cette trêve. Le mouvement islamiste affirme que toute agression israélienne met en danger les otages. Nous ferons le point avec Thibault Lefebvre à Jérusalem. 14 ans après Fukushima, l'industrie nucléaire a le vent en poupe. Elle devrait fournir cette année près de 10% de l'électricité mondiale. C'est surtout la Chine qui construit de nouveaux réacteurs. François Bayrou affronte en ce moment sa première motion de censure à l'Assemblée avec un avantage non négligeable sur son prédécesseur Michel Barnier. Le nouveau Front populaire est désuni ce soir. Le Parti socialiste a finalement choisi de ne pas voter cette motion avec les autres formations de gauche. Ajoutez à cela le fait que le Rassemblement national ne souhaite pas renverser pour l'instant François Bayrou, le Premier ministre devrait survivre à cette motion. Sophie Delpont, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de l'Assemblée, Sophie. Le vote, je crois, vient d'avoir lieu et les opérations de dépouillement sont en cours.
Oui, et le résultat va arriver dans les prochaines secondes. Et tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, qui a présenté le double objectif de cette motion de censure.
Monsieur le Premier ministre, les jours de votre gouvernement de malheur sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra.
François Bayrou lui répond en lisant une lettre.
Une lettre qui a été publiée il y a moins d'un mois, exactement le 17 décembre, par la totalité des organisations des entreprises et la grande majorité des organisations syndicales. C'est l'économie réelle, l'avenir des entreprises et le quotidien des salariés qui sont en jeu. Les conséquences d'une instabilité prolongée pour notre société, sa cohésion, les femmes et les hommes qui la composent en seraient graves.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, réaffirme un principe.
Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Nous ne croyons pas en un en même temps qui entretient une confusion qui a pour seul effet de donner l'exclusivité de l'alternative à l'extrême droite.
Mais le PS n'a pas voté la censure et préfère négocier encore au maximum sur le budget en maintenant la pression sur le gouvernement Bayrou.
Il n'est donc plus question de pacte de non-censure, comme cela peut exister dans d'autres pays avec des gouvernements minoritaires. Un vote de censure est donc possible à tout moment.
À tout moment, mais pas aujourd'hui. Le PS choisira peut-être de censurer le gouvernement lors de la présentation du budget dans l'hémicycle à la fin du mois. Mais à cette heure, la stratégie du parti à la rose penche davantage du côté de laisser du temps jusqu'à l'été. Une position qui ne va pas arranger la concorde au sein du NFP, écologistes et communistes ayant soutenu dès aujourd'hui le texte porté par LFI.
Sophie Delpont en direct du Palais Bourbon avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Et à l'instant, cette confirmation, donc le gouvernement Bayrou qui échappe à sa première motion de censure. La motion qui a donc été rejetée par l'Assemblée. Alors, pour arriver à s'attirer la clémence du PS, François Bayrou a fait toute une série de concessions sur les retraites, les enseignants, le déremboursement des médicaments et les jours de carence des fonctionnaires. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Le Premier ministre qui s'est même fendu d'un courrier aux socialistes pour récapituler ses concessions.
Oui, et le chef du gouvernement démarre bien sûr par les retraites en évoquant non pas une nouvelle négociation sur le sujet, mais une concertation. Les mots sont toujours importants sur ces sujets. Et je cite, une discussion sans totem ni tabou, même sur l'âge légal d'ouverture des droits. Il confirme le maintien de la contribution exceptionnelle des plus hauts revenus, qui était dans le précédent budget, et promet même qu'en 2026, un dispositif plus pérenne anti-optimisation serait trouvé. La surtaxe provisoire sur l'imposition des grandes sociétés qui doit rapporter 8 milliards d'euros en 2025 reste bien dans ses projets, alors qu'on aurait pu en douter vu son discours de politique générale et son parallèle entre les multinationales françaises et la poule aux œufs d'or de la fable de La Fontaine. La suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale est officiellement abandonnée. Seront bien créés 2000 postes pour les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Autre point de tension suspension du précédent budget. Il est vrai, le passage de 1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie pour les agents publics disparaît, ainsi que les 500 postes en moins qui avaient été prévus à France Travail, au moment même où on demande à cette agence de l'État d'accentuer son accompagnement sur les personnes au RSA. La liste tient comme ça sur quasi 3 pages. Difficile cependant de savoir si au final cela augmente le déficit de l'État et des comptes sociaux ou les réduit, puisqu'il y a à la fois des mesures qui rapportent et d'autres qui coûtent.
Marie Viennot, merci. Il y avait foule ce matin à Paris pour la messe d'hommage à Jean-Marie Le Pen, disparu la semaine dernière. Environ 400 personnes à l'intérieur de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce et plusieurs milliers à l'extérieur sur le parvis. Parmi les personnalités venues rendre hommage au fondateur du Front National, nombre de ses ennemis d'hier. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Stanislas.
Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais excusé pour ses nombreux dérapages qui lui ont valu de multiples condamnations, mais il a beaucoup pardonné au cours de sa carrière politique.
Oui, on se souvient par exemple de la violence des mots de Jean-Marie Le Pen en 1998 contre Bruno Maigret, qu'il exclut du Front National accusé de félonie. Il moque sa petite taille, le traitant de Napoléon. Il se compare à César, affirmant qu'il va tuer Brutus. Brutus alias Bruno Maigret était là ce matin pour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Les deux hommes s'étaient réconciliés 8 ans après leur rupture. Réconciliés également Jean-Marie Le Pen et sa fille Marie-Caroline, partie rejoindre Bruno Maigret. Cela a pris un peu plus de temps, une vingtaine d'années. Elle était là ce matin et a même fait un discours lors de la cérémonie.
Il n'était pas un papa poule, mais il a toujours été là, pour nous, ses filles, dans les coups durs de la vie, de manière indéfectible. Nous avons été un peu éduqués comme des garçons. On ne se plaint pas. Tu pourrais être pieds nus dans la neige pendant la guerre. Cette phrase mythique dans la famille dont on sourit entre nous était sa réponse à toute tentative de récrimination. Maintenant, Jean-Marie Le Pen est auprès de Dieu. Adieu, papa.
Jean-Marie Le Pen exclut du FN sa propre fille, Marine Le Pen, en 2015. Réconciliés eux aussi. Réconciliés enfin Jean-Marie Le Pen et son ex-femme Pierrette, elle qui avait quitté le domicile conjugal avec pertes et fracas, posée nue dans Playboy pour humilier son ex-conjoint. Elle qui s'était répandue pendant des années dans les médias sur l'antisémitisme et le racisme de Jean-Marie Le Pen, affirmant qu'il possédait un compte frauduleux en Suisse. Pierrette Le Pen, sans le sou, finit par être hébergée à Saint-Cloud, dans la propriété de son ex-mari, Pierrette Le Pen, qui était présente samedi dernier aux obsèques de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer.
Antoine Marette, merci. À noter que ce matin, plusieurs personnalités jugées indésirables par la famille Le Pen ont été reléguées à l'extérieur de l'église, comme le négationniste Yvan Benedetti, le patron de Rivarol Jérôme Bourbon, ou bien encore l'ex-humoriste Dieudonné, plusieurs fois condamné pour antisémitisme. Les heures passent au Proche-Orient et les obstacles s'accumulent sur la route du cessez-le-feu à Gaza. Annoncé hier soir par les États-Unis et le Qatar, Israël réserve toujours sa réponse. Benjamin Netanyahou exige de nouvelles garanties de la part du Hamas. Et pendant ce temps-là, l'État hébreu continue à bombarder l'enclave palestinienne des cibles terroristes selon l'armée israélienne. Nous sommes avec Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Thibault, il semble ce soir que la situation soit en train d'évoluer très vite.
Oui, alors restons prudents, hein, mais on vient de l'apprendre. Selon la chaîne publique Kan et le quotidien Haaretz, le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir demain matin pour valider l'accord. Alors si cette information est confirmée dans les prochaines heures, peut-être dans les prochaines minutes par le cabinet du Premier ministre, on pourra alors considérer que l'accord est en phase d'approbation, mais que c'est difficile. 3 fois depuis hier soir, Israël a reproché au Hamas d'avoir changé au dernier moment les terme de l'accord. Le premier point de friction concernait les plans de retrait des troupes de Gaza. Puis les discussions se sont concentrées sur le corridor de Philadelphie à la frontière égyptienne, corridor que l'État hébreu doit abandonner au début de la deuxième phase de l'accord. Et depuis ce matin, le différend portait sur la liste de prisonniers palestiniens libérables. Le Hamas a assuré de son côté avoir respecté à la lettre le texte qui lui a été présenté par les médiateurs. Difficile d'y voir clair, mais ce qui est sûr, c'est que Benjamin Netanyahou est sous la pression de son extrême droite qui menace de faire tomber le gouvernement si l'accord est signé en l'état. L'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a lui remis la pression ce soir sur le Premier ministre. L'ancien magnat de l'immobilier lui a demandé avec insistance de remobiliser ses négociateurs et donc de finaliser le deal. Et il semble, si l'information diffusée il y a quelques minutes dans la presse israélienne est confirmée, eh bien qu'il a été entendu.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Un accord en tout cas qui divise la société israélienne. À l'image de ces manifestants rassemblés devant les différents lieux de pouvoir à Jérusalem. C'est un reportage de Michel Paul.
Face au bureau du premier ministre israélien, des proches de victimes de la guerre, ils ont posé des cercueils recouverts du drapeau israélien pour dénoncer un accord qui, à leurs yeux, fragilise la sécurité du pays. Yehoshua Hashani est l'organisateur de ce rassemblement. Son fils Uri est mort au combat dans la bande de Gaza.
Nous pensons que Trump n'a pas une vision complète de la situation. Et c'est plutôt décevant que notre premier ministre n'ait pas insisté sur la libération de tous les otages d'un coup. C'est un mauvais accord. Il laisse 70 otages à Gaza et il ouvre la voie au retour de milliers de terroristes.
Et à quelques centaines de mètres de là, face à la Knesset, David Agmon fait depuis 118 jours la grève de la faim pour mettre un terme à la guerre et permettre le retour des otages. Il est général de réserve et aussi ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahou.
Il y aura toujours les manipulations de Benjamin Netanyahou parce que lui, il ne veut pas cet accord. Il a peur de Trump, mais il y a d'autre part, il a peur de Smotrich et Ben-Gvir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord.
Pour ou contre l'accord avec le Hamas, dans les deux camps, on se dit déchiré entre espoir et inquiétude.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, à Gaza. Les scènes de joie d'hier soir ont rapidement laissé la place au chaos provoqué par les dernières frappes israéliennes. Au moins 77 morts depuis l'annonce du cessez-le-feu selon les services de secours palestiniens. Alice Froussard a pu joindre sur place des Gazaouis qui n'en peuvent plus.
Très vite, les célébrations ont laissé place aux avions, aux bombardements, à des scènes de désolation. Dans le camp de Jabalia, des bâtiments sont encore pulvérisés, les corps ramassés, entassés dans ce qu'il reste de l'hôpital. Salem est un volontaire de la défense civile.
On peut dire que ça avait commencé comme l'une des nuits les plus heureuses depuis le 7 octobre 2023. Mais une heure à peine après, on a appris que 40 personnes d'une même famille venaient d'être tuées dans un bombardement dans le camp de Jabalia. La joie s'est retransformée en tristesse.
Des routes impraticables, pas d'ambulance, retrouver des survivants relève d'une mission impossible, poursuit-il.
Franchement, on a été secoués comme s'il y avait eu un tremblement de terre. La zone, c'est un désastre. On a retrouvé juste des restes de corps humains. Mais il reste encore une vingtaine de personnes sous les décombres.
Car à Gaza, beaucoup le savent pertinemment. Pour le moment, le cessez-le-feu n'est qu'une annonce. Il doit entrer en vigueur dimanche. Abou Ali, un autre Gazaoui du Nord, sait que les jours seront longs.
Les trois prochains jours, on s'attend à un bain de sang, bien plus qu'avant. Ça va être vraiment difficile. Encore plus que toute l'année et ces quatre mois qui se sont écoulés. On espère que ça ne sera pas le cas, mais c'est le cas avant chaque cessez-le-feu. On espère que les gens prendront soin d'eux, car ça va être dur.
Craignant un retournement de situation, ils espèrent surtout que l'accord tiendra jusqu'à dimanche.
Alice Froussard pour ses témoignages à distance de ces Gazaouis qui attendent la fin des combats. L'électricité d'origine nucléaire va atteindre un niveau record en 2025, affirme aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie. Elle devrait atteindre presque 10% de la production mondiale d'électricité. Un peu partout dans le monde, de nouvelles centrales sont construites, surtout en Chine, qui devient un peu l'épicentre de cette nouvelle géographie nucléaire. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Les années de reflux qui avaient suivi l'accident de Fukushima en 2011 sont derrière nous.
Oui, après une bonne trentaine d'années de pause, de parenthèse, le nucléaire semble à nouveau séduire dans un objectif de décarbonation mondiale. Le nucléaire est la deuxième source d'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre derrière l'hydroélectricité. Alors selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, l'atome produit actuellement un peu moins de 10% de l'électricité mondiale, mais elle devrait, dans les années donc qui viennent, connaître une nouvelle ère pour répondre à l'explosion de la demande en électricité. En forte hausse, à cause de l'arrivée sur le marché des voitures électriques, d'une demande croissante aussi de climatisation, demande aussi des data centers également. Les investissements annuels mondiaux dans le nucléaire pourraient quasiment doubler d'ici 2030 pour atteindre 120 milliards de dollars par an d'ici donc 2030. La majorité de la soixantaine de réacteurs actuellement en construction se trouve, vous l'avez dit, en Chine. Pékin devrait dépasser les États-Unis et l'Europe en termes de capacité installée d'ici donc à 2030. La Russie n'est pas en reste, deuxième constructeur derrière la Chine et première exportatrice réacteurs de centrales nucléaires. Le développement du nucléaire, parallèlement à celui des énergies renouvelables, qui vont, elles, poursuivre leur spectaculaire déploiement, le nucléaire rencontre toutefois quelques écueils pointés aussi par l'Agence internationale de l'énergie. D'abord, une fragilité, une dépendance dans l'approvisionnement d'uranium importé, intégralement importé par les pays occidentaux. Et puis surtout, le respect des délais et des budgets constitue un vrai défi pour la filière. En tout début de semaine, la Cour des comptes soulignait dans un rapport les nombreuses incertitudes financières autour de la construction de 6 nouveaux EPR français, dont la construction se chiffre en dizaines de milliards d'euros, des financements publics de surcroît.
Véronique Robérotte, spécialiste des questions d'environnement à la rédaction de France Culture. Le recensement de la population française a démarré aujourd'hui. Les agents de l'INSEE vont interroger pendant un mois 9 millions de personnes dans toute la France, avec une nouvelle question qui fait polémique sur le lieu de naissance des parents. Question facultative, certes, mais 5 syndicats et associations appellent à ne pas y répondre car ils redoutent une instrumentalisation politique, en clair, que les réponses soient utilisées pour alimenter le discours sur une prétendue invasion migratoire de la France. Argumentaire contesté par la chercheuse Élise Palomares, spécialiste des inégalités et des discriminations à l'université de Rouen. Au contraire, cette nouvelle question sera utile pour la recherche et pour l'action publique.
Il y a un blocage en France dans le fait de ne pas s'arrêter seulement aux migrations proprement dites ou aux nationalités, mais aussi tout ce qui se joue dans la catégorisation des descendants d'immigrés ou tout simplement la catégorisation de gens qui ne sont pas descendants d'immigrés, mais qui continuent d'être perçus comme étant différents de la majorité qui se pense, elle, comme blanche. L'action de la nationalité dans le recensement, ça permet d'approcher ces inégalités très concrètes, ces discriminations fondées sur l'origine qu'on va retrouver dans tous les domaines de la vie sociale, dans le logement, dans la santé, dans l'éducation, dans l'accès aux droits, dans les relations avec la police, dans tous les domaines de la vie sociale où les inégalités ne sont pas seulement en France des inégalités sociales, elles sont aussi très souvent liées au classement des personnes fondées sur leur origine.
Est-ce que cette donnée peut donc être utilisée pour infléchir des politiques publiques ?
Oui, parce que c'est quand même le rôle du recensement, c'est de pouvoir aussi servir les politiques locales au plus près de ce qu'on peut prévoir et de ce qu'on peut anticiper. Et la faiblesse des politiques publiques de lutte contre les discriminations en France, elle est notoire. Et on peut imaginer que c'est aussi un défaut d'identification du problème et de mesure de ces inégalités. Donc on peut espérer que cet outil du recensement va pouvoir permettre d'élaborer davantage d'instruments d'action publique de lutte contre les discriminations.
La chercheuse Élise Palomares répondait à Laura Dulieu. Le quartier de la Négresse à Biarritz va-t-il changer de nom ? C'est ce que souhaite l'association Mémoire et Partage, qui veut gommer les traces du passé négrier de plusieurs villes de la façade atlantique. Et pour elle, cette appellation, la Négresse, est péjorative et surtout raciste. L'affaire est arrivée aujourd'hui en appel à la Cour administrative de Bordeaux, qui rendra sa décision ultérieurement. À Biarritz, la municipalité n'a pas du tout l'intention de rebaptiser le quartier. La Négresse, un nom qui aurait été donné par des soldats napoléoniens en référence à une femme qui servait dans une auberge. C'est un reportage d'Alia Doukali.
Avant de porter l'affaire en justice, l'association Mémoire et Partage a régulièrement interpellé les édiles à la mairie de Biarritz, à commencer par Michel Venac, l'ancien maire. Il était en poste en 2015.
Le nom de la Négresse est un nom qui a plus d'un siècle. Et à cette époque-là, les sensibilités étaient différentes. Si on se met à renommer des sites comme celui de la Négresse, eh bien il faudra renommer le phare de Terre-Nègre en Charente-Maritime. Il faudra aussi sans doute débaptiser alors la négritude d'Aimé Césaire, la Négresse. C'est un quartier de Biarritz qui ne porte aucune valeur raciste en aucune façon. Il faut être raisonnable.
5 ans plus tard, en 2020, le président de l'association, Carfa Diallo, demande à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour du conseil municipal. L'actuel maire de Biarritz, Maïder Arostegui, refuse.
Ce monsieur n'a pas à venir nous donner des leçons d'histoire ou des injonctions. Je trouve ça tout à fait déplacé. Nous avons notre histoire. Elle peut effectivement déplaire ou choquer. C'est au Biarro et au Biarro seul de prendre la décision par rapport au nom de ce quartier. Mais aujourd'hui, ça n'est pas à moi, maire, d'imposer au conseil municipal une décision qui n'a absolument pas été au cœur de nos engagements.
C'est à ce moment-là que l'affaire est portée en justice. Carfa Diallo saisit le tribunal administratif de Pau en 2020.
Je pense que l'attachement à cette appellation est un attachement qui soit traduit une certaine ignorance de la portée de ce nom, ou bien une certaine mauvaise foi. La négresse, c'est véritablement une appellation qui ressort d'un crime contre l'humanité, et c'est cela que nous attaquons donc au tribunal administratif.
En décembre 2023, le tribunal administratif de Pau juge que le nom du quartier La Négresse n'a pas de connotation péjorative. L'association a donc décidé de faire appel. S'ils n'obtiennent pas raison, ils envisagent le Conseil d'État.
Ce reportage signé Alia Doukali, ici Pays Basque. Un mot du temps demain, toujours des conditions anticycloniques, de la grisaille au nord de la Loire et un ciel plus lumineux au sud. Demain matin, les gelées seront généralisées, sauf sur le littoral atlantique, entre moins 6 et 0 degrés en général. L'après-midi, il fera de 1 à 16 degrés du nord à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait François Saint-Jour.